RFI, il est minuit à Paris, 22h, temps universel. Soyez les bienvenus.
24h en France.
24 heures d'actualité en France, résumées dans une demi-heure d'information. Je suis ravie de vous accompagner sur RFI.
Margot Ratézy.
Il est devenu le premier pape américain. Léon XIV a été élu par les 133 cardinaux, acclamé par les dizaines de milliers de fidèles au Vatican. Vous entendrez dans un instant les réactions de la communauté catholique en France. L'actualité de ce 8 mai en France, ce sont aussi les commémorations des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et dans un contexte de multiplication des conflits mondiaux, Emmanuel Macron a mis en garde sur la menace du spectre de la guerre. En Nouvelle-Calédonie, des élections à haut risque se profilent d'ici novembre après l'échec des négociations sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Enfin, dans une dizaine de minutes, la culture, on parlera du Soudan. La cinéaste Hind Bedeb dresse le portrait d'une jeunesse en quête de liberté.
RFI.
Habemus Papam, la célèbre formule, a enfin résonné au Vatican sous les yeux de dizaines de milliers de fidèles et de journalistes du monde entier. Il s'appelle donc Léon XIV, il a 69 ans et il est le premier Américain à occuper la fonction. Sa ligne modérée s'inscrit dans le sillage de François, son prédécesseur. À Paris, en tout cas, les catholiques rencontrés il y a quelques heures sont plutôt satisfaits de ce choix. Je vous propose de les écouter près de la cathédrale Notre-Dame, où était Baptiste Coulon.
C'est au cours de la messe à Notre-Dame de Paris qu'Anne-Marie a appris l'élection du nouveau pape.
Tout le monde a crié, tout le monde a applaudi, on était tous contents.
De la joie dans la voix de cette fervente catholique, Léon XIV, à ses yeux, c'est le bon choix.
Il est né dans une famille qui avait des ouvertures parce qu'il est né d'un père français et d'une mère italienne. Il a travaillé au Pérou, donc je pense qu'on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour avoir un pape ouvert au monde.
Un pape américain, ouvert et modéré, peut-être un futur opposant à Donald Trump, selon cette fidèle.
Il se met toute sa population à dos. Je ne pense pas que le pape va le suivre dans sa façon de penser.
Pas de tension ni de polémique avec qui que ce soit pour Soline, qui espère au contraire un pontificat apaisé.
Il parle de pont, et ben de faire le pont entre la tradition et la mission, de rester profondément uni au Christ plutôt que de plaire au monde. C'est le Christ qui fait l'unité.
À 17 ans, Constance approuve elle aussi le profil de Léon XIV, mais elle jugera sur les actes. À ses yeux, un dossier est prioritaire pour le nouveau pape, celui des violences sexuelles au sein de l'Église.
Les voix se sont libérées et je trouve que c'est une bonne chose et j'espère que ça sera mis encore plus en avant. Il faut que les gens se sentent à l'aise dans notre Église, qu'ils se sentent bien et protégés.
Un pape résolument tourné vers la jeunesse, c'est aussi l'espoir de cette jeune catholique.
Baptiste Coulon. Il y a 80 ans, l'Allemagne nazie capitulait, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale. La France a organisé comme chaque année une grande cérémonie près de l'Arc de Triomphe, cérémonie d'ordinaire matinalière qui s'est tenue cette année en fin d'après-midi. Emmanuel Macron a évoqué dans son discours le retour de la guerre en Europe. Je vous propose de l'écouter.
Nous n'aurons jamais fini de nous battre pour la victoire. Et nous n'aurons jamais fini de défendre la paix. Nous n'aurons jamais fini. Et si certains le pensaient, ces dernières années en Europe et dans le monde nous l'ont rappelé. Nous n'aurons jamais fini d'affirmer la place de notre pays, des idéaux qu'il porte, de défendre notre indépendance, notre liberté et une Europe plus forte. Alors oui, il y aura la France encore, encore et pour toujours. Et avec elle l'Europe et notre paix.
Emmanuel Macron en commémoration du 8 mai 1945 à Paris. Et on poursuit cette séquence mémorielle avec un sondage sur les Français et la Seconde Guerre mondiale. 4 sur 5 se disent intéressés par cet épisode de l'histoire. Et pour plus de 40% des sondés, la guerre de 39-45 reste même l'événement historique le plus important depuis près d'un siècle et demi. Réaction au micro d'Aram Beng.
Martine avait 3 ans quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Âgée de près de 85 ans aujourd'hui, elle se dit bien informée de cet événement historique.
Que ce soit à la télévision, que ce soit dans les livres, oui, on est au courant de tout quand même. Peut-être que ma génération fait plus attention à ça que les jeunes d'aujourd'hui, hein, le 8 mai 45, hein, l'armistice pour eux.
L'étude montre pourtant que plus de la moitié des Français considèrent être bien informés sur la Deuxième Guerre mondiale grâce à l'école. C'est le cas de cette jeune fille de 22 ans qui dit craindre une Troisième Guerre mondiale.
Je pense pas que ce soit la dernière, non, non.
Pourquoi ?
Ce qui se passe en Palestine, en Israël. Il y a aussi les tensions entre deux pays qui possèdent la bombe nucléaire, donc l'Inde et le Pakistan. Ça aussi, c'est une bombe qui est sur le point d'exploser.
Même inquiétude chez cet homme de 70 ans.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas donc la paix. Tout le monde fait donc ce qu'il pense. Partout, c'est ça. Chacun soi-même.
80 ans après l'armistice, la Seconde Guerre mondiale intéresse toujours la majorité des Français. Mais cette guerre, la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité, nourrit encore chez beaucoup d'entre eux la crainte d'un nouveau conflit mondial.
Naram Beng. La Nouvelle-Calédonie toujours dans l'impasse. Les négociations sur l'avenir institutionnel de l'archipel français ont échoué malgré les discussions sous l'égide du ministre français des Outre-mer, Manuel Valls. Il n'y a donc toujours pas de cap politique pour le territoire dont le statut divise les partisans de l'indépendance et les non-indépendantistes. Ce sont donc des élections à haut risque qui se profilent d'ici novembre. La Nouvelle-Calédonie avait subi l'année dernière les plus violentes émeutes depuis les années 80. À Nouméa, la correspondance de Charlotte Manvi.
Qui peut voter aux élections provinciales ? C'est cette question qui avait déclenché l'explosion de violence de mai 2024, qui avait fait 14 morts et détruit des centaines d'entreprises. Mais faute d'accord, ces élections qui avaient été repoussées pour laisser une chance au dialogue se tiendront au plus tard au mois de novembre. Voilà des mois que Manuel Valls, qui achevait ce jeudi son troisième séjour en trois mois dans l'archipel, tentait de mettre d'accord indépendantistes et non-indépendantistes. Mais les esprits n'étaient peut-être pas mûrs, a-t-il regretté, au terme de trois jours de négociations à huis clos dans un hôtel éloigné de Nouméa. Les non-indépendantistes ont refusé la proposition faite par l'État, qui n'était selon eux rien d'autre que l'indépendance, tandis que Manuel Valls a retoqué leur contre-proposition de fédéralisme, un séparatisme de fait pour le ministre, où chacun vivrait de son côté. Juste avant son départ, Manuel Valls s'est adressé aux Calédoniens, leur demandant de garder espoir tout en disant son inquiétude sur une campagne électorale qui s'annonce délétère. Charlotte Manvi, Nouméa, RFI.
Et on reviendra sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie dans notre journal des Outre-mer à suivre dans quelques minutes. Marine Le Pen a-t-elle un problème avec Jordan Bardella ? Depuis que le président du Rassemblement National s'est autoproclamé plan B potentiel pour le prochain scrutin présidentiel, eh bien la chef des députés à Rennes ne cesse d'être interpellée sur cette hypothèse en cas d'inéligibilité. Marine Le Pen, présente aux commémorations du 8 mai dans son fief du nord de la France, a encore martelé qu'elle n'était pas hors course. Raphaël Delvolvé.
Croyez-moi, je suis là, et bien là, et plus combatif que jamais. L'adjectif est toujours le même depuis sa condamnation. Cette fois, Marine Le Pen répondait sur le récent sondage dans lequel elle semble moins bien placée que Jordan Bardella pour 2027. Ça ne me froisse pas, je trouve ça ridicule. Je ne disparais pas du fait d'une décision de justice, ajoute-t-elle. Comme il y a deux jours en réunion de groupe, elle ne cache pas son agacement au moment où son parti peine à retrouver l'équilibre de son binôme, Le Pen future présidente, Bardella futur premier ministre. Le président du parti n'y est d'ailleurs pas étranger, il ressemble ces dernières semaines à un candidat en rodage. Il s'affiche à Rome, aux obsèques du pape François, prend position contre l'euthanasie dans la presse conservatrice, quand son mentor recommande la sobriété sur les sujets sociétaux, ou encore se vante devant des journalistes de sa popularité dans les enquêtes et du succès de son livre. Combien de temps cette situation de flottement peut-elle tenir ? L'issue du procès en appel de Marine Le Pen, c'est à l'été 2026, à moins qu'entre-temps, une explication ait lieu entre les deux têtes du RN.
Raphaël Delvolvé. Emmanuel Macron accueillera ce vendredi le Premier ministre polonais Donald Tusk, non pas à Paris, mais à Nancy. Les deux dirigeants doivent signer un traité d'amitié et de coopération. Et cette ville de l'Est de la France n'a pas été choisie au hasard, car Nancy symbolise les liens qui unissent Paris et Varsovie, comme nous l'explique Anastasia Becchio.
Emmanuel Macron accueillera Donald Tusk sur la magnifique place Stanislas. Elle porte le nom de l'ancien roi de Pologne, devenu duc de Lorraine, Stanislas Leszczynski, par ailleurs beau-père de Louis XV. Au-delà du symbole, l'événement est destiné à hisser les relations franco-polonaises à un niveau supérieur. Signe de l'importance que revêt la Pologne pour la France, ce traité bilatéral est le premier signé avec un pays non frontalier. Les contours de l'accord restent encore flous. Selon Emmanuel Macron, il doit concerner les domaines stratégiques de la défense à l'énergie en passant par le nucléaire, la coopération scientifique, linguistique et culturelle. Côté polonais, le ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, avait affirmé que ce traité mentionnerait de fortes clauses de sécurité. Avec la guerre en Ukraine à ses portes, la Pologne est devenue une puissance régionale incontournable. Son armée est la plus importante du continent et ses dépenses de défense avoisinent les 5% de son PIB. Très atlantiste et dépendante des États-Unis pour la fourniture d'équipements militaires, elle cherche toutefois à nouer de nouvelles alliances dans un contexte d'instabilité généré par la présidence Trump. La France y voit une opportunité de rapprochement qui sera scellée cet après-midi au Palais Stanislas. Anastasia Becchio, Nancy, RFI.
On poursuit en musique avec une star planétaire, une star franco-algérienne. DJ Snake sera ce samedi au Stade de France, près de Paris, pour un grand concert. Un événement que le DJ aux 40 milliards d'écoutes a baptisé The Final Show. Edmond Sadaka.
Ces 80 000 places du Stade de France se sont arrachées en quelques minutes à peine à l'ouverture de la billetterie en décembre 2023. Les fans qui ont réussi à décrocher le précieux sésame devraient assister ce samedi soir à un moment riche en émotions, car si DJ Snake l'a baptisé The Final Show, ce n'est pas par hasard, évidemment. Il affirme que ce sera très probablement son dernier concert en solo à Paris, car il estime avoir atteint la plus haute marche.
Si demain il y a un stade qui est plus grand que le Stade de France, je le ferai, mais on va tout le temps vers le haut. Je ne me verrai pas redescendre en gamme, même si c'est des salles que j'adore. En tout cas, pour mon projet solo DJ Snake, je voulais finir au top, un peu à la Zidane.
Une fois le concert du Stade de France terminé, la soirée se poursuivra jusqu'au bout de la nuit à quelques kilomètres de là, à l'Accor Arena de Paris, devant 20 000 spectateurs. Et là encore, les billets se sont envolés en moins de 5 minutes.
Il est minuit 12 à Paris, 2 heures de moins en temps universel, 24 heures en France continue.
24 heures en France. Margot Ratézic.
Elle dresse le portrait d'une jeunesse soudanaise en pleine guerre. Hind Medeb est cinéaste. En 2019, elle part à Khartoum. 6 ans plus tard, elle signe le film « Soudan, souviens-toi », désormais disponible dans les salles françaises. Hind Medeb y suit le soulèvement des jeunes contre le régime dictatorial d'Omar el-Béchir. Elle était notre invitée culture sur RFI au micro d'Elisabeth Le Carré.
Hind Medeb, bonjour.
Bonjour.
En mai 2019, vous êtes partie au Soudan. Le pays était en pleine révolution après la destitution du régime dictatorial. Au moment où vous partez, quels sont vos liens avec ce pays ?
Je venais juste de présenter un mois plus tôt à Cinéma du Réel mon précédent film qui s'appelle Paris Stalingrad et dont le personnage principal était soudanais. Et en tournant ce film Paris Stalingrad entre 2016 et 2019, je me suis liée d'amitié avec des réfugiés soudanais, la diaspora soudanaise à Paris, des réfugiés politiques. Et donc, quand la révolution a commencé au Soudan et qu'il y a eu la chute d'Omar el-Béchir au mois d'avril 2019, ses amis soudanais à Paris m'ont tous encouragé à partir au Soudan. En fait, ils avaient envie que je leur ramène des images de leur révolution. Ils n'avaient pas la possibilité d'y aller. Ils étaient en train de faire leurs papiers.
Donc, vous arrivez au Soudan, à Khartoum. C'est la révolution. Le pays est en pleine effervescence. Vous vous retrouvez entouré de jeunes gens qui vous appellent l'étrangère. D'ailleurs, certains sont des amis à vous. Comment on filme ces moments et comment on se sent dans ces moments ?
Alors c'était très impressionnant pour moi parce que c'était une ville entière, une ville utopique. C'est-à-dire que des Soudanais étaient venus de tout le pays et avaient installé des tentes et occupé toutes les rues. Et ils ont intitulé le lieu, enfin cette ville dans la ville, cette ville utopique, ils l'ont intitulé Etesam. Etesam en arabe, ça veut dire la place de l'attente. En fait, c'est l'endroit où on attend, c'est le sitting. C'est là où on attend que les choses bougent et changent. Donc les Soudanais, en fait, ont beaucoup d'humour. Et surtout, ils avaient une vision extrêmement précise de la société dont il rêvait et qu'il voulait instituer.
Hinbedeb, les gens que vous filmez, ils ont vraiment grandi sous le boisseau, dans un pays sans aucune perspective. Et ce qui est incroyable, c'est de les voir aussi, aussi ouverts, traversés par énormément d'idées, de concepts, la démocratie, enfin, y compris dans leur façon parfois naïve d'en parler.
C'est un pays qui était sur la liste des pays terroristes, le Soudan, pour les États-Unis par exemple. Tous les livres dissidents étaient interdits et c'est pour cette raison-là que plus les choses étaient interdites, plus les gens essayaient d'aller les chercher. Donc c'est vrai que j'ai vu une jeunesse qui lit beaucoup plus que nous, une jeunesse pour qui la poésie est omniprésente. Tout ce qui constitue la trame du film, c'est l'écriture poétique et c'est la joute verbale poétique dans la rue.
Votre film, Hinbedeb, commence au moment actuel, donc au moment de cette guerre qui déchire le Soudan. Et tout le film est un flashback.
Ce que je voudrais dire, c'est que je voudrais revenir au titre, « Soudan, souviens-toi ». Le titre est inspiré d'un poème qui est à la fin du film. Et ce poème est un poème d'outre-tombe. Puisque en fait c'est un jeune homme qui a été tué dans une manifestation et il dit « Quand vous reconstruirez le pays, souvenez-vous de moi. Quand vous planterez un arbre et qu'il vous donnera des fruits sucrés, souvenez-vous de moi. » Ce film, je l'ai fait pour qu'on n'oublie rien de la puissance, de la beauté, de tout ce que ces Soudanais ont fait. Et je pense que c'est ça qui est important. Ne jamais oublier ce qui s'est passé. Comme nous, en France, on n'oublie jamais 1789. Les Soudanais n'oublieront jamais 2019.
Hinbedeb, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
La cinéaste Hinbedeb, interrogée par Elisabeth Le Quéré pour le film « Soudan, souviens-toi ». Demain, 10 mai, marquera comme chaque année la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. En région parisienne, la ville d'Arcueil va inaugurer une stèle du souvenir pour l'occasion. Depuis quelques années, des monuments, des sculptures, des plaques apparaissent dans l'espace public un peu partout en France. Alors comment sont pensés puis érigés ces lieux de mémoire? Reportage de Sylvie Coffy.
Les premières villes à avoir érigé un lieu du souvenir avaient une histoire en lien direct avec l'esclavage, comme les ports de Nantes, Bordeaux ou La Rochelle.
Le critère d'un lieu de mémoire, c'est d'avoir un rapport avec le passé esclavagiste.
Frédéric Régent, historien, nous donne quelques exemples.
Une plaque portant le nom d'un armateur négrier, un musée, un mémorial.
Arcueil, 21 000 habitants, fait partie des communes qui, même sans passé esclavagiste, ont voulu avoir un lieu mémoriel. Le choix de cette ville du Val-de-Marne s'est porté sur une stèle pour célébrer cette journée du 10 mai. L'installation est située entre deux écoles, maternelle et élémentaire. Guillaume Viau, adjoint au maire.
Le projet, effectivement, c'était de mettre en place une colonne brisée, comme l'esclavage qui a été brisé aussi. On voit que le haut est un petit peu brisé. Et puis l'idée, c'est une stèle voilà, qui permette d'apposer cette plaque, qui est la reconnaissance de l'esclavage. Voilà, donc il y a eu un travail fait notamment par les associations, avec des jeunes, pour savoir qu'est-ce qu'on veut mettre comme phrase sur cette stèle. Et finalement, ça s'est resserré à ce premier article de la loi de 2001 qui consacre la reconnaissance de l'esclavage par la France comme un crime contre l'humanité. Et on y a posé en plus cette phrase d'Edouard Glissant sur la mémoire. L'oubli offense et la mémoire, quand elle est partagée, abolit cette offense. Ça redit bien notre volonté de partager cette mémoire, de l'assumer aussi.
Mais avant d'en arriver là, cela a pris pas mal de temps.
C'est vrai que depuis un peu plus de 10 ans, on faisait tous les ans une commémoration qu'on faisait au monument aux morts de la ville d'Arcueil. Il n'y avait pas de lieu de recueillement spécialement dédié à ça. Et ça nous paraissait important de créer un lieu et quelque chose qui demeure aussi.
Damarisma Marchand, militante pour le droit des femmes et membre du collectif Les Chemins de la Mémoire, a enfin le sourire.
Je suis non seulement honorée et fière par moments, lorsque j'aurai besoin de certaines forces, je viendrai me recueillir ici.
Et en effet, elle n'aura plus à être ballottée d'un site à l'autre.
On a été à des lieux qui plus ou moins ressemblaient, là où étaient commémorées d'autres histoires de la France. On suivait et on se disait un jour ça arrivera. Ça arrivera pour qu'on ait un lieu. Mais sinon, c'était souvent des lieux symboliques déjà qui existaient. Et on a toujours été comme ça pour pouvoir commémorer chaque année.
Sur sa plateforme, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage va donc inscrire ce nouveau lieu de commémoration. Et elle s'attelle déjà à recenser les sites présents à travers le monde liés à l'histoire de l'esclavage.
Le journal des Outre-mer.
3 jours de conclave, mais pas de fumée blanche à la fin. C'est ainsi que l'on pourrait résumer les négociations qui se sont achevées ce jeudi matin en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir Benoît Ferrand.
Bonsoir. Aucun accord entre indépendantistes et loyalistes n'a en effet été trouvé, ce qu'a confirmé en début d'après-midi ce jeudi le ministre des Outre-mer Manuel Valls. Reportage Anne-Claire Lévesque.
Durant 3 jours, les délégations politiques calédoniennes, le ministre des Outre-mer et le conseiller spécial du Premier ministre, Éric Thiers, ont notamment étudié le projet porté par les loyalistes et le rassemblement « impossible à accepter », a dit Manuel Valls.
Le projet des loyalistes et du rassemblement mettait en cause, à nos yeux, l'unité et l'indivisibilité de la Nouvelle-Calédonie à travers un projet de partition de fait, avec la mise en place progressive des conditions d'un partenariat ou d'un statut associé pour les régions nord et des îles et d'un système fédéral pour la région sud redécoupée.
En face, le projet défendu par l'État décrit ainsi par le ministre.
La souveraineté avec la France qui pourrait se traduire par un transfert et une délégation immédiate des compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie, l'instauration d'une double nationalité française de droit et calédonienne, l'établissement d'un statut international, tout cela à l'issue d'un délai à déterminer et à négocier, ancré dans la Constitution française.
Un projet qui aurait soldé plusieurs questions très sensibles, selon Manuel Valls, tout particulièrement celle du corps électoral à travers la citoyenneté et celle du droit à l'autodétermination. Manuel Valls appelle désormais les Calédoniens à travailler en comité de suivi avec l'État et entre partenaires politiques.
En Martinique, les rotations des navettes maritimes devront reprendre. Ainsi en a décidé mercredi le tribunal administratif de Fort-de-France. À défaut, l'entreprise Blue Line devra payer une astreinte de 5 000 € par jour. Une victoire pour les usagers de ces navettes entre les Trois-Îlets et Fort-de-France. Et leur avocate, maître Aurélie Bell, elle est au micro de Patrice Château-Dégas.
Décision historique. Incroyable, nous sommes extrêmement heureux pour les usagers qui ont enfin été entendus. Leurs droits sont enfin reconnus, puisque la décision aujourd'hui est extrêmement claire. Blue Line doit respecter ses obligations contractuelles et remettre en place le service de navette maritime sous astreinte de 5 000 € par jour de retard. Ils devront trouver les solutions, en tout cas, peut-être réparer plus vite leur bateau, remettre en place des navettes, puisque cette astreinte va commencer à courir à compter de la signification de l'ordonnance. Et bien évidemment, ils vont être contraints de payer chaque jour de retard pour lesquels ils n'auront pas mis en place le service. Le tribunal administratif, nous avions lancé une procédure en référé liberté pour laquelle nous n'avions pas été audiencés et pour laquelle nous avions effectivement beaucoup de regrets que le juge ne nous ait pas entendus, puisque pour nous c'était quand même un mépris de ne pas nous audiencer. Il était important que les usagers soient entendus. Il y a une telle colère des usagers et puis une telle souffrance surtout qu'il était important qu'on puisse se faire entendre. Ce n'avait pas été le cas malheureusement et nous avions été déboutés devant la juridiction administrative, raison pour laquelle nous avons tenu bon, nous avons mené le combat et nous avons été cette fois-ci devant la présidente du tribunal judiciaire dans le cadre d'un référé d'erreur que nous avons gagné aujourd'hui et dont nous sommes extrêmement heureux.
Le 80e anniversaire du 8 mai 1945, la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie a été, comme partout ailleurs en France métropolitaine et d'outre-mer, dignement commémorée ce jeudi à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'occasion, une 60aine d'invités venus de l'Hexagone et du Canada avaient fait le déplacement dans l'archipel. Et parmi eux, les membres de la fanfare du Régiment Royal de Terre-Neuve, dirigé par l'adjudant Anna Gotois. Elle est au micro de Leïla Derouet.
C'est vraiment un plaisir d'être ici parce que vraiment comme les îles de Terre-Neuve, les îles de Saint-Pierre et Miquelon, pour nous, c'est vraiment, même si c'est la France, on a les choses vraiment en commun. Alors pour nous, être ici et célébrer avec vous, ça fait du bien et ça encore, ça montre la camaraderie entre nous deux.
Est-ce qu'il y a des chansons, des musiques que vous avez travaillées particulièrement pour cette cérémonie? Qu'est-ce que vous avez pu interpréter par exemple?
Bon, alors la Marseillaise, c'est quelque chose vraiment important parce que faut pas faire des erreurs avec ça. On a bien travaillé pour avoir les chansons plutôt françaises au lieu de l'Amérique du Nord.
Et justement, dans ces cérémonies entre la France et l'Amérique du Nord, il y a vraiment des choses qui changent, qui sont différentes?
Oui, avoir la trompette qui joue toujours chaque fois qu'il y a un ordre, ça c'est différent. Puis aussi, bon, c'est en français au lieu d'anglais. Alors, pour ceux qui ne parlent pas français, le français, il faut écouter un peu plus parce que si on manque quelque chose, on va complètement le manquer de tout. Mais d'habitude, ça marche, c'est un peu proche, mais il y a les petites choses qui sont un peu différentes.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît Ferrand, bonne soirée à vous.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
Ce soir dans votre Conseil Santé, on s'intéresse aux TOC, ces troubles obsessionnels compulsifs qui poussent certaines personnes à se laver les mains à répétition ou encore à vérifier plusieurs fois que la porte est bien fermée. Des petites manies qui peuvent faire sourire mais qui deviennent très vite handicapantes lorsqu'elles se manifestent de manière incontrôlable. Alors d'où viennent ces TOC et surtout comment se soigne-t-on ? Caroline Paré et son invité vous répondent.
Docteur Aurélia Schneider, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre spécialisée en thérapie comportementale et cognitive attachée à l'hôpital de Bicêtre, au Kremlin-Bicêtre en région parisienne. À partir de quel moment une habitude répétée doit-elle être considérée comme un TOC, un trouble obsessionnel compulsif ?
On va dire qu'à partir du moment où le patient ressent un handicap, à partir du moment où sa vie commence à tourner autour, soit de lavage, de vérification, soit qu'ils ne peuvent pas absolument pas faire quelque chose que les autres font naturellement, ça devient un problème dans sa vie.
Est-ce que lorsque ce TOC apparaît, il est important d'en retrouver l'origine pour le prendre en charge ou pas forcément ?
Non, il faut simplement enquêter un peu. Et parfois, j'ai des patients comme ça, les TOC se développent après un traumatisme. Bon, on fait les mêmes traitements, mais peut-être on va fonctionner un petit peu différemment. Quelquefois, on ne retrouve absolument pas d'origine.
Merci, docteur Schneider. Tout à l'heure, dans Priorité Santé, nous vous proposons de réentendre l'émission que nous avions consacrée aux soins, au suivi des personnes en situation de handicap. Quels sont les freins? Quelles sont les pistes d'amélioration en termes d'accessibilité, mais aussi de lutte contre les stigmatisations pour éviter le découragement dans la santé des patients handicapés? C'est à retrouver à 9h10, 1h10 temps universel, et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
24 heures en France touche à sa fin. Je remercie Maëlle Guyot à la réalisation ainsi que Loïc Buissière à la rédaction en chef. Ne bougez pas tout de suite sur RFI, votre édition d'Afrique Soir. Mais avant cela, on part à New York pour la bourse.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones grimpe de 255 points et revient à 41 369. L'indice du Nasdaq reprend 190 points et atteint ce soir 17 928. L'accord commercial avec le Royaume-Uni, annoncé à la Maison-Blanche, est moins important que le proclame Donald Trump. Il représente néanmoins un pas en avant vers une normalisation des relations commerciales des États-Unis avec son vieil allié. Le président Trump salue l'ouverture du marché britannique à des produits agricoles et industriels américains. L'accord réduit par ailleurs les droits de douane frappant les automobiles assemblés en Grande-Bretagne, notamment les Jaguar et les Range Rover. De nombreux détails, toutefois, restent à préciser. Donald Trump affirme que d'autres accords sont en cours de négociation avec d'autres pays, ce qui rassure Wall Street. L'Inde, le Japon, la Corée, l'Indonésie pourraient annoncer quelque chose à ce propos au cours des prochaines semaines. En outre, au cours du week-end, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, rencontrera en Suisse le vice-premier ministre chinois, ce qui pourrait déboucher sur une désescalade de la guerre économique entre Washington et Pékin. Le dollar profite de l'optimisme du moment. L'euro retombe à 1,1224. Le baril américain de pétrole rebondit de plus de 3% et termine à 60$. L'indice Dow Jones avance de 0,6%. Le Nasdaq s'offre 1,1%.
RFI, les voix du monde. Demain, sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Un album pour s'affranchir du regard des autres et apprendre à cultiver sa différence. Julia Jean-Baptiste, sa pop-rock à la fois énergique et mélancolique, revient avec Toujours plaire. Elle sera avec nous et en live dans l'émission.
sur le Pont des Arts
avec la compagnie Corsair.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
Quel bilan donne RFI de l'insurrection de 1947 à Madagascar ? Derrière les chiffres, le travail des historiens malgaches comme français permet d'éclairer aujourd'hui un peu mieux les événements de cette grande révolte au cœur de la colonie française.
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Juliette Rangeval, tous les vendredis à 19h41 sur RFI.